Tessinois, 25 pour les Fribourgeois.
Il est 18h.
Voici l'heure des informations avec Timothy Montavon. Bonsoir.
Bonsoir Malik, bonsoir à toutes et à tous. Les femmes dans le milieu de la construction demandent des mesures contre le harcèlement sexuel sur les chantiers. Selon un sondage du syndicat Unia, une femme sur 300 femmes interrogées, la moitié ont été victimes de harcèlement sur leur lieu de travail. Elles demandent donc notamment une stratégie de tolérance zéro auprès de leurs employeurs, des sanctions et à ce qu'une interdiction du harcèlement sexuel soit formulée dans leur CCT de Suisse.
Des bouchons massifs dans la zone du Gothard à quelques jours de l'Ascension.
Aujourd'hui, 1h30 d'attente en direction du sud et plus d'une heure aussi en sens inverse. Une situation assez courante pour ces périodes de l'année. Ça ne risque pas de s'arranger la semaine prochaine avec le long week-end de l'Ascension. L'A2 et l'A13 sont particulièrement touchés. Plus de transparence en politique pour les partis du canton de Berne. Les groupements et candidats politiques vont devoir dévoiler leur financement pour les élections et votations à l'avenir. Des règles de transparence censées permettre au grand public d'être mieux informé sur les tendances politiques des gros donateurs. Toutefois, seuls les comités de campagne qui dépassent 20 000 francs de budget devront s'y soumettre. Elles entreront en vigueur pour les élections cantonales de 2026. Le Conseil fédéral veut imposer des quotas de femmes aux postes de direction dans les grandes entreprises suisses. À partir de 2026, le but est d'avoir 30% de femmes dans les conseils d'administration des firmes cotées en bourse et un cinquième de femmes d'ici 2031. Tout ça fait suite à une évaluation récente d'AWP qui montre que ces conseils de direction ne comptent aujourd'hui que 21% de membres féminines.
Viola Amherd et le pape se sont rencontrés ce matin.
Ils ont discuté ce matin, entre autres sujets, d'une reconstruction de la caserne de la garde suisse. Cette nouvelle caserne ne serait donc pas construite par l'État du Vatican, mais bien par une fondation suisse privée. La présidente de la Confédération a affirmé son soutien au projet. Elle sera aussi présente à la prestation de serment de 34 nouveaux gardes pontificaux lundi après-midi. Deux fusillades ont eu lieu cette nuit en France. La première en Seine-Saint-Denis. Un homme a perdu la vie et trois autres sont à l'hôpital avec pronostic vital engagé. La deuxième à Toulouse, au sud, où un homme est décédé et deux autres ont été blessés, l'un d'eux grièvement. Dans les deux cas, une enquête a été ouverte pour homicide volontaire.
Et on termine avec l'information sportive avant de retrouver Fribourg Olympique en direct.
L'équipe nationale de hockey sur glace s'est inclinée aujourd'hui face à la Finlande. Score final 3-1. Après avoir ouvert le score et dominé le premier tiers, les Helvétiques n'ont pas su garder l'avantage et ont encaissé 2 buts en 9 minutes. Les Suisses doivent encore affronter la Tchéquie demain pour un dernier match de préparation au championnat du monde. Et terminons avec un sport dont on ne parle pas souvent, mais dans lequel les Suisses ont brillé en grand chelem au Tadjikistan ce week-end, le judo. La finale féminine d'hier était 100% helvétique, une première dans l'histoire de ce sport. Et celle d'aujourd'hui a vu triompher le Zurichois Nils Stumpf. Le judoka a remporté ses 5 combats et est pressenti pour remporter l'or olympique cet été.
Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe.ch.
La météo avec Agrolabulle, votre partenaire énergie régionale pour vos combustibles et carburants. Agrolabulle.ch.
Le temps de ce dimanche reste variable avec une remontée des températures. Il va faire aujourd'hui de 10 à 20 degrés. Ça va encore se gâter pour le début de la semaine prochaine avec un risque d'averse persistant. Lundi, il fera de 11 à 14 degrés sous la pluie.
Radio Fribourg sur frappe.ch.
À écouter sur notre appli Frappe et frappe.ch. Radio Fribourg.
h 3 sur Radio FR. Après ces informations, on repart du côté des sports. On vous le rappelle, aujourd'hui, on suit l'acte 3 de la finale entre Massagno et le Fribourg Olympique. Valentin Danzi, Pauline Sédoux, vous êtes sur place dans le Tessin. Les hommes de Thibaut Petit sont en difficulté dans ce deuxième quart.
Dans le deuxième quart, ici le score de 36 pour Massagno, 25 pour les Fribourgeois. Eric Notage qui a perdu un ballon et derrière le alley-oop avec Tutonda. À la conclusion, attention à ces balles perdues. Hein. C'est un des soucis dans, ce, dans cette première mi-temps, Pauline, du côté des Fribourg Olympiques.
Oui, on avait déjà évoqué les 4 balles perdues dans le premier quart. Là, une cinquième qui s'ajoute. Eric Notage qui a heureusement glissé. Hein. Ouais. Apparemment, il y avait un peu de sueur aussi au sol. Mais il en fait un tout petit peu trop, le meneur américain. Il lâche pas assez sa balle. Du coup, les coéquipiers sont pas assez concernés. Donc, on n'a pas la joue. Fribourgeois, il faut qu'il ait confiance en ses coéquipiers un peu plus.
Avec Roberto Kovac qui manque la longue distance. distance. La contre-attaque pour Tessinois avec Isaiah Williams. C'est un moment compliqué hein, par les Fribourgeois. Entre la fin du premier quart et le début du deuxième avec Denans. Extérieur pour Chris Clanton. Clanton défendu par Sané. Clanton à mi-distance. Ouais. C'est les deux points facilement marqués par Chris Clanton. Pauline, il faut absolument stopper l'hémorragie parce que sinon la messe sera pratiquement dite à la mi-temps. Hein.
Là, ça va être compliqué. Les deux premiers points de Clanton, ouais, on l'a bien limité. Hein. C'est le meilleur match défensivement contre lui. Par contre, on a les deux frères maladiennes qui ont complètement explosé au niveau offensif. Donc voilà Massagno qui trouve aussi d'autres solutions. Mais Fribourg qui a stoppé un petit peu l'hémorragie par un 3 points de Casadi avant.
Ouais.
Mais on voit qu'ils sont encore dans le dur.
Ouais, clairement, ouais. Et heureusement, Notez qui peut marquer 2 points supplémentaires. On rejoint à l'intérieur du côté tessinois avec Clanton à mi-distance.
Ouais, la faute
de Sané. Sifflé par Monsieur Tocher, l'arbitre hongrois de cette rencontre. Hein, Pauline, pour l'instant, Massagno qui domine, qui peut dominer avec Clanton à l'intérieur, mais qui domine surtout avec ses tirs extérieurs, alors que les deux premiers matchs, c'était plutôt à l'intérieur que Massagno posait des problèmes olympiques.
Oui, puis surtout Massagno qui a retrouvé de la réussite à longue distance, et ça change tout. Hein. C'est quand même le jeu de cette équipe, une équipe qui tire beaucoup à 3 points, qui adore ça. Et maintenant, ben, on voit les deux frères Mladian sont sur le banc, donc on donne un peu plus la balle à l'intérieur sur Clanton. Massagno joue toujours un très bon match, de manière très intelligente. C'est plutôt Fribourg, je trouve, un petit peu en dessous, hein, vraiment dans un creux depuis 5-6 minutes.
L'Olympique qui s'est abattu là au niveau du rebond avec Toutanda pour Martino à longue distance. C'est manqué. Couture qui peut prendre ce rebond. Allez, 12 points de retard pour Olympique. Il faudrait passer sous la barre des 10 points à la mi-temps. Greenway, grosse faute de Clanton. Bien joué de la part de Xavier Green qui a provoqué la faute de Clanton. Pauline, ce serait vraiment l'idéal d'arriver avec moins de 10 points de retard à la mi-temps pour les Fribourgeois. Ce serait, on va dire, limiter la casse.
Clairement, vraiment limiter la casse. L'occasion de reposer un petit peu les esprits puis de mettre des choses en place par rapport à ces 3 points des frères Mladian. On a vu qu'il y a eu un changement de défense du côté de Fribourg Olympique avec de la zone qui a été essayée. Et puis là, on a vu qu'on a pu prendre un rebond, on dominait le rebond, lancer la contre-attaque. Et Xavier Green provoque la faute. Dès qu'on remet un petit peu de rythme, Massagno n'arrive pas à revenir à temps et à avoir une défense en place. Clanton, il est quand même assez lourd aussi à déplacer. Il prend du temps à revenir. Donc cette vitesse-là, il faut l'utiliser un peu plus. Mais pour ça, ça demande de verrouiller le secteur des rebonds.
Ouais, clairement. Et au niveau du secteur des rebonds olympiques qui est clairement dominé, hein, c'est pratiquement, il y a pratiquement 10 rebonds de différence. 21 rebonds pour Massagno et seulement 12 pour le Fribourg olympique. Green sur la ligne des lancers francs et premier lancer franc manqué par Green. Allez, il faut réussir absolument le deuxième pour réduire cet écart à 3 minutes de la mi-temps. 39 pour Massagno, 27 pour Olympique, 1 sur 2 pour Xavier Green. Profitez également, comme le disait Pauline, que les deux frères Mladjan sont actuellement sur le banc pour essayer, pourquoi pas, de réduire cet écart avec Martino. Et on rejoue pour Clanton. La bonne défense de Sané. Avec Clanton, il ne faut pas le laisser se rapprocher du panier. Bonne défense de la part de Sané. On rejoue à l'intérieur. Kiss Clanton qui ressort pour Martino. Va faire faute avec Toutanda. Couture qui mord à la fin. Et les 3 points de Brunel Toutanda. Énorme réussite à 3 points, Pauline, du côté tessinois.
Ouais, on tourne maintenant à. On est à 33%
en exactement,
plus. Mais
exactement,
un petit peu plus parce que le tir n'a pas été comptabilisé. Donc je pense autour des 40%. Et ça fait un petit moment maintenant que Massagno flirte avec cette réussite. Et de nouveau, hein, on se fait prendre par ses feintes. Il y avait Kylian Martin dans le premier quart, là, Arnaud Couture, où on saute sur un tir alors qu'il restait une seconde et demie pour les tessinois pour tirer. Et il n'y a pas besoin de sauter, mais non. Après, ça rebooste tout le public tessinois, toute l'équipe, parce qu'on met un shoot à la dernière seconde. Et du côté de Fribourg, ça remet un coup sur la tête.
Hein. Exactement, et Thibaut Petit qui prend son temps mort. Le score à 2 minutes 37 de la mi-temps, 47 pour Massagno, 28 pour Olympique. Baptiste et Romain, on vous retrouve du côté du Lucie, puisque la deuxième mi-temps a débuté entre Châtel-Saint-Denis et la Tour-le-Pâquier.
Exactement, Valentin, 50e minute de jeu ici au stade du Lucier. C'est toujours 3-0 pour la Tour Le Paquier. Mais Châtelet-Saint-Denis est venu et entré dans cette partie, avec, dans cette deuxième mi-temps, avec des bonnes intentions, Baptiste.
Ouais, ça aurait été le scénario idéal. Ainsi, Victor Higiro avait transformé cette frappe. Hein, le numéro 10 châtelois a trouvé le poteau à la 47e minute et on l'a vu prendre sa tête dans ses bras. Hein, le moral, ça, c'est compliqué là pour les châtelois. Ça aurait été le scénario idéal. Après, on aurait pu envisager une éventuelle remontada, mais là les choses sont compliquées. On va suivre ce coup franc avant de repartir du côté de basket. Il y a peut-être une situation de contre-attaque pour le FC La Tour Le Paquet avec Valon Ramabaya qui porte le ballon, qui transmet à Nouma Fingini. Il y a une situation de contre, il faut jouer rapidement. On essaye de changer de jeu, mais là c'est pas très bien joué du numéro 18 gruyérien. On va aller au bout de cette action avec les Tours, hein, qui vont essayer de centrer. C'est mis dans la surface de réparation, mais le ballon a été contré. 51e minute de jeu, toujours 3-0 pour le FC La Tour Le Paquet face au FC Châtel de Saint-Denis. Valentin, Pauline, retour au basket.
Ça se passe mal pour le Fribourg Olympique. 14 points de retard pour les Fribourgeois. Un peu plus de 2 minutes de la mi-temps. Et Green qui a écopé d'une faute offensive. Du coup, la balle qui revient dans les mains des Tessinois avec Donalds, défendu par Notic. Donalds qui tente un contre un. La bonne défense de Notic. Et la faute sifflée contre Eric Notage, ouais, Pauline Olympique qui ne trouve pas de solution offensive et défensivement. Vraiment, Olympique en grosse, grosse difficulté face aux Tessinois.
Oui, sur les 1 contre 1, on utilise trop les mains. Notage là qui fait la faute sur la pénétration de Denon. C'est sa deuxième faute, hein, au top scorer fribourgeois. Sur l'action précédente, c'était non pas Green, mais Russ Williams.
Ouais, pardon.
Qui, pour se dégager de la défense de Denon, a touché la gorge, a mis la gorge de Denon. Donald, c'est un peu près auprès des arbitres, et les arbitres à retard ont fait une faute offensive. Donc en fait, tout va mal. Là. Les décisions arbitrales sont aussi maintenant en longueur, mais à raison.
Oui.
Et du coup, on a l'impression que.
Il semblerait qu'on a quelques petites difficultés là avec la connexion en direction du Tessin. On va juste profiter de faire un petit détour par la rencontre entre le Stade Payerne et le CS Romontois. Comment ça se passe, Marius, dans cette deuxième mi-temps?
Merci Malik, le jeu a repris depuis 6 minutes ici et c'est toujours 1-0 pour le CS Romontois qui pour le moment conserve son avance face à Payerne. Payerne qui s'est quand même montré dangereux en ce début de deuxième mi-temps avec quelques occasions, mais ils n'ont toujours pas réussi à trouver la faille face au portier de Romont, Kalou Kemba. Les Romontois qui font plutôt le dos rond en ce début de deuxième mi-temps. On espère que une des deux équipes parviendra tout de même à retrouver le chemin des buts comme l'a fait Memetage à la 5e minute pour son équipe glanoise. On va peut-être encore juste suivre cette action avant de peut-être essayer de retourner du côté de la salle du Nozedo à Massagno avec un corner obtenu par le stade Payerne. C'est Krasniqi qui va aller s'occuper de tirer ce coup de pied avec pas mal de rouges qui vont monter dans la surface de réparation, hein, notamment le grand défenseur central de Payerne, Ivan Telin. Ce serait intéressant de savoir quelle taille il fait parce que il y a quelques centimètres le centre, attention, et c'est capté par le portier de Romont. Pas de danger pour le CS Romontois après 53 minutes de jeu. C'est toujours 1-0 pour Romont ici au stade municipal de Payerne. On va essayer de retourner du côté du Tessin avec vous Valentin Nanzi et Pauline Sédou en espérant que vos problèmes de connexion se soient réglés.
On croise les doigts, exactement, Marius. Ça se passe mal pour le Fribourg Olympique. 16 points de retard, Olympique dominé dans pratiquement tous les secteurs de jeu. Et Olympique qui perd un peu d'énergie en discutant pas mal avec, avec les arbitres. Il y a plusieurs signes qui montrent que l'équipe fribourgeoise est vraiment dans le dur.
On parlait de la clé de cette finale, la gestion des émotions. Et on voit Fribourg, comme vous le dites, qui perd d'énergie, qui se fait déborder un petit peu. Ces émotions suite aux décisions arbitrales. Pour moi, les décisions arbitrales, la plupart, elles sont tout à fait justifiées. Le problème des Fribourgeois, c'est qu'on ne verrouille absolument pas le rebond. On laisse énormément de rebonds offensifs. Il y a 10 rebonds de plus pour Massagno. Et ensuite, on est obligé de commettre des fautes parce que les joueurs tessinois sont sous le panier et peuvent marquer facilement. Donc, on doit essayer de les arrêter en les tapant.
Et Ross Williams qui marque à longue distance, ça fait du bien. Et Pauline, Roby Gubitoza, alors que tu as 14 points d'avance, qui prend immédiatement un temps mort. Il ne veut pas pas laisser Olympique revenir. Hein.
Non, vraiment. Et je pense qu'il a raison, le coach tessinois, parce qu'on a vu que dans cette série, ce qui était important, c'était de réussir à maintenir un écart. Ouais. Et pour une fois, je pense que c'est la première fois de la série qu'il y a autant d'avance en faveur du tessinois.
Clairement.
C'est vrai que absolument empêcher Oeck de revenir à moins de 10 points, c'est la priorité Massagno, parce que pour Fribourg, ça demandera une énergie assez impressionnante dans le troisième quart, s'il y a 14-15 points d'avance pour Massagno.
Et le temps mort pris par Roby Gubitosa, le score 47 pour Massagno, 33 pour le Fribourg olympique des Tessinois qui domine hein, le secteur des rebonds. Pauline l'a dit, 23 rebonds à 12. Et au niveau de l'adresse des shoots, c'est correct. Hein, Pauline a 47% du côté de Massagno, 44% du côté des Bourgeois. L'une des grosses différences est clairement le secteur des rebonds.
Le secteur des rebonds, c'est vraiment la clé aujourd'hui pour l'instant. Et puis aussi le double pour Fribourg olympique. Mais ça, c'est parce que justement, bah, comme ils n'ont pas les rebonds, ils n'ont pas les contre-attaques. Ils ont des actions qui sont posées la plupart du temps et la défense de Massagno étant bien en place, on force, on est dans le dur, donc ouais. Les choix sont moins bons. Tout s'imbrique ensuite, hein, c'est un peu un cercle vicieux. Et il faut, je pense, commencer par se battre à l'intérieur. À mon couture qui se plaignait auprès de ses coéquipiers, mais je fais une grosse défense sur Clinton, j'arrive à le bloquer. Puis derrière, on a Denans qui prend le rebond, clairement, c'est pas possible. Et je pense que c'est ça qui va être corrigé à la mi-temps dans le vestiaire fribourgeois.
Et là, une faute offensive, qui sait qui l'a prise?
Je pense Denans.
Est-ce que c'est Denans? Exactement, sur la remise en jeu. Allez, pourquoi pas de réduire encore un tout petit peu l'écart juste avant la fin de la mi-temps avec Ross Williams. Il reste 30 secondes ici du côté de la salle de Nozedo avec Ross Williams pour Xavier Green. Green qui fait mine de shooter. On va remettre en place un système. Jurković à 3 points, c'est complètement manqué. Et le rebond qui tombe dans les mains des Tessinois. La remise en jeu sera pour les Tessinois. Encore une fois, on s'est bien maté au niveau des rebonds, mais de nouveau, il y a eu Kovac et Clanton, et Clanton, Pauline, qui a pu pousser la balle sur Roberto Kovac.
Oui, attention, parce qu'on a une action qui risque de faire mal. On a 14 points d'écart, on a les deux frères Mladian sur le terrain. Si Massagno devait marquer à 3 points, 17 points à la mi-temps, ça ferait vraiment mal dans la tête.
Exactement, et Marius, on va vite retourner chez toi, puisque je crois savoir que le score a évolué du côté du stade municipal.
Exactement, Valentin, c'est Romain qui vient de marquer son deuxième but de la partie, et ceci grâce à son capitaine d'Olivera Borges, Kevin, qui a tout simplement pu hériter d'une magnifique passe de la part de Gajigo. Ça a été habilement même étage a habilement laissé passer ce ballon entre ses jambes, lui qui se trouvait au point de pénalty, et ensuite Borges se trouvait seul au deuxième poteau. Il a pu adresser une grosse frappe hein, dans un cadre vide. Et c'est bien joué de la part de Romain qui peut mener de 2-0 à la 57e. Valentin Nanzi et Paul Nicedo, on revient vite vers vous pour la fin de cette première mi-temps entre Fribourg Olympique et Massagno.
Merci beaucoup Marius. Plus que 16 secondes à jouer dans cette première mi-temps, 47 pour Massagno, 33 pour le Fribourg Olympique. Et les deux frères Mladjan qui sortent pour éviter certainement la troisième faute.
Tout à
c'est
fait,
bien coaché de la part de Roby Gubitosa.
Bien sûr, très bien coaché, on les protège en défense. Fribourg va probablement aller jusqu'à la dernière seconde pour dans sa possession, donc on met les frères Mladjan sur le banc
avec Doric Notage pour essayer de réduire l'écart. Il y a 14 points de retard pour Olympique, 47 pour Massagno, 33 pour les Fribourgeois. Avec la faute
offensive de Roberto Kovac.
Roberto Kovac qui s'est fait avoir par Denans.
Et il a poussé pour sortir. Et maintenant les frères Mladjan, on va les revoir sur le terrain.
Hein. Bah exactement, puis c'est Massagno qui va avoir la dernière possession. Et Roberto Kovac qui sort.
C'est sa deuxième faute.
Exactement, ouais.
On a 5 joueurs d'Olympique à deux fautes.
Kovac finalement reste sur le terrain. C'est Notage qui sort, exactement. On a Notage, Williams, Kazadi, Martin et Kovac à deux fautes. La dernière possession avec Marco Mladjan depuis le parking et ça rentre. Marco Mladjan, on a eu Dujan, les frères Mladjan, Pauline, qui font très très mal au Fribourg Olympique.
Et 17 points à la mi-temps ici à Massagno, c'est le pire scénario qu'on aurait pu envisager, parce que on a vu les deux coachs jouer vraiment tactiquement pour qu'il y ait cette barre des 10 points, à la fois Thibaut Petit qui voulait absolument passer sous cette barre des 10 points. Et Roby Gubitosa, dès que Fribourg s'est rachet un petit peu, prendre un temps mort pour empêcher Fribourg d'aller près de cette barre. 17 points. Mais bon, quand on voit jouer, je pense qu'il y a l'attitude. Et particulièrement, on l'a évoqué à plusieurs reprises, ce secteur des rebonds qui est archi dominé par Massagno. Pour rajouter à ça, comme vous l'avez dit, les deux frères Mladian en réussite à longue distance. Si on donne moins de rebonds offensifs, on donnera aussi moins d'armes aux frères Mladian. Et il y a beaucoup de choses à changer du côté de Fribourgeois. Maintenant, 17 points, il faudra aller les chercher au niveau de l'énergie.
Ah ouais, et au niveau des rebonds, c'est le double, hein, tout simplement. 24 rebonds pour Massagno, 12 seulement pour le Fribourg Olympique. Le score à la mi-temps, 50 pour Massagno. Fribourg Olympique, on va te rejoindre Marie, stade municipal où je crois savoir que le score a encore une fois évolué.
Exactement, Valentin, c'est maintenant 3-0 pour le CS Remontois qui décidément n'a pas eu besoin de beaucoup d'occasions pour mettre ce ballon au fond des filets. Et cette fois-ci, hein, c'était le buteur sur le 2-0, c'était le passeur sur le 2-0, c'est maintenant le buteur sur le 3-0, Sherif Gajigo qui vient inscrire un magnifique but, une très grosse frappe, petit filet, rien à faire pour Damien Bouchard. Et tout d'abord, l'action est partie du capitaine, hein, Kevin Borges, qui a réussi à dribbler un joueur, un deuxième. Il s'est finalement fait mettre à terre. L'arbitre a décidé de laisser jouer. Memetage a habilement pris ce ballon, adressé une petite passe à Gajigo qui a pu marquer. Ça fait donc 3-0 pour Romo qui décidément est bien mieux rentré dans la deuxième mi-temps que leur adversaire, le Stade Payerne, qui pour le moment doit juste accuser le coup. On va se rendre tout de suite du côté du Stade du Lucie. Avec vous, Romain Ediger et Baptiste Charrière. Quel est le score de votre côté?
3-0 pour le FC La Tour Le Paquet, Marius. Le score reste inchangé. Cette deuxième période est un petit peu pauvre en occasion. En tout cas, pour l'instant, le FC La Tour Le Paquet maîtrise bien. C'est un La Tour Le Paquet en mode gestion dans ce premier quart d'heure de la deuxième période après un petit peu de flottement. Le gardien Vevezan a été touché. Le jeu a pu reprendre. Mais Romain, pour l'instant, Châtel-Saint-Denis a de la peine à se montrer dangereux.
Ouais, exactement. Tu disais un peu de flottement, mais la note aurait pu être beaucoup plus salé, hein, pour les Vevezans.
Exactement,
pour les Vevezans qui ont failli encaisser déjà à la 57e minute par Sacha Tavares, où le ballon a touché la barre transversale. Et puis la deuxième grosse occasion à noter, c'est Nouma Figuini, encore lui. Qui aurait pu marquer un triplé face à son ancienne équipe à la 60e minute, où il s'est présenté un peu seul face au gardien. Mais c'est toujours 3-0.
Ouais, Nouma Figuini, c'est le cauchemar de la défensive châteloise en ce samedi 4 mai. Il est en train de jouer un bien mauvais tour à ses ex-coéquipiers. Et là, le ballon est dans les pieds du portier gruyérien Damien Repon, qui va prendre son temps pour dégager la balle. Il demande à ses coéquipiers de monter. On joue à la hauteur de la ligne médiane. C'est dégagé loin devant. Ça arrive sur Nouma Figuini qui perd son duel. Récupération de balle des Châtelois avec Claire, Thibaut Claire qui perd son duel. Et c'est Patrick Da Silva, ouais, bien joué pourtant du milieu à Châtelois. Et intervention de l'arbitre qui va donner le ballon au Châtelois, Romain Couffrand, pour le FC Châtel-Saint-Denis.
Alors on sent vraiment, c'est un vrai duel de milieu de terrain où il n'y a pas beaucoup d'occasions. Les deux équipes qui se neutralisent un peu, parce qu'il faut dire quand même que c'est 3-0 et puis que chacun a besoin des points, mais chacun ne veut pas se découvrir là vers l'avant. Donc on a vraiment une partie un peu serrée pour cette deuxième mi-temps. On joue la 63e minute et je vous propose d'aller en direction de Mediapart pour un sujet Samedi Sport.
Il y a des offres qu'on ne peut pas refuser et Karen Gaillard le sait bien. C'est pour ça qu'elle a rejoint les Iron Dames, une équipe de plus en plus connue et composée de femmes pour l'année 2024. La Fribourgeoise de 22 ans pilotera une Lamborghini Huracan en Le Mans Cup, un championnat européen de GT3. La gruyérienne participera aussi à l'Ultimate Cup Series. Karen Gaillard dévoile son programme.
Mon premier programme, c'est dans le championnat de la Michelin Le Mans Cup en GT3 avec les Iron Dames. Et le deuxième programme, c'est le même que l'année passée, en Ultimate Cup Series, avec l'équipe ANS Motorsport en prototype.
Alors, on va parler en particulièrement de ces Iron Dames. Expliquez-nous, c'est quoi le concept de cette équipe?
Alors, Iron Dames, c'est un projet qui a été fondé en 2018 par Deborah Mayer. Et le but, c'est de mettre des femmes en avant dans un domaine masculin, comme le domaine du sport automobile. Et donc, le but, c'est de faire des équipages uniquement féminins et de se bagarrer contre des hommes et montrer que la femme a sa place dans le sport automobile.
C'est une équipe qui devient de plus en plus connue. Comment ça s'est passé en fait, Karen, votre arrivée là-bas? Est-ce que c'est eux, elles, qui vous ont approché?
Alors, c'est fin d'année dernière, Raël Frey, une des pilotes, qui m'a contactée pour faire un test. Et voilà, j'ai fait ce test fin d'année passée, donc ma première fois dans une GT3. Ça s'est très bien passé et c'est comme ça que je suis rentrée dans l'équipe.
En gros, on vous a dit, si le test se passe bien, il y a une chance que tu intègres l'équipe.
Alors au début, on ne m'a pas trop donné d'infos, on m'a juste dit, voilà, viens faire un test, on regardera comment ça se passe. Et vu que ça s'est vraiment bien passé, c'est à qu'elles ont dit, bon bah, on va trouver un championnat pour toi et ce n'est pas la dernière fois que tu rouleras cette voiture.
Est-ce qu'il y avait une certaine pression au moment d'aller à ce test? Parce que c'est un petit peu comme un entretien d'embauche.
Étonnamment, non. Sur le moment du test, je n'étais pas trop stressée parce que bah, je me suis dit, purée, c'est la chance d'une vie. Mais en même temps, je me suis dit, voilà, je fais de mon mieux, il faut que je m'amuse. C'est incroyable de pouvoir rouler une GT3 déjà une fois dans sa vie. Donc au pire des cas, bah, j'aurais déjà fait une journée dans une magnifique voiture et voilà.
Qu'est-ce que ça représente pour vous d'en faire partie?
Bah, c'est vraiment incroyable. Pour moi, je peux le dire, la chance d'une vie d'être chez les Iron Dames. Je pense que c'est le rêve de toutes les femmes qui courent en sport auto. Je pense que ça me rapproche aussi un peu plus de notre objectif de faire un jour les 24 heures du Mans.
Et vous allez donc participer à la Le Mans Cup. Expliquez-nous comment il se déroule, ce championnat.
Donc c'est un championnat qui est composé de 6 week-ends de courses répartis dans toute l'Europe. Les courses, c'est à chaque fois 1h50. On est 2 pilotes. Et il y a un week-end qui sera très spécial. C'est le week-end de la semaine des 24 heures du Mans, où là, on aura 2 courses de 50 minutes en ouverture des 24 heures du Mans.
Et ça, c'est aussi un honneur pour vous d'y participer.
C'est vraiment incroyable parce que bah, c'est mon rêve de faire un jour cette mythique course et là de pouvoir rouler en ouverture. Ça me permet déjà d'être dans l'ambiance, de découvrir le circuit parce que sinon on ne peut pas y rouler le reste de l'année. Donc c'est une chance énorme.
Karen Gaillard est actuellement au Castellet sur le circuit Paul Ricard pour la deuxième course de Le Mans Cup. Une course qui débutera peu avant 18h. Et pendant cette pause entre la première et la deuxième mi-temps de basketball, profitons de mettre un peu plus de lumière sur ces deux rencontres de deuxième ligue inter, à commencer par celle entre le Stade Payerne et le CS Romontois. Marius Cam, comment se passe cette rencontre après un peu plus de 60 minutes de jeu?
C'est vraiment une rencontre qui est pour le moment à sens unique depuis la reprise de la deuxième mi-temps, avec Romont qui mène et qui domine facilement cette deuxième mi-temps, eux qui ont marqué deux buts très rapidement et dans un très court laps de temps, avec tout d'abord d'Olivier Borges, le capitaine, qui a pu marquer d'une jolie frappe, et ensuite finalement c'est Gajigo lui aussi avec une belle frappe qui a pu mettre son équipe à 3-0 avec un joli matelas pour permettre d'aborder les 30 dernières minutes. Il en reste maintenant un peu plus de 20. Est-ce que Romont va passer en mode gestion ou va continuer d'attaquer? En tout cas, pour le moment, les Romontois se montrent encore très dangereux. On verra comment la fin de match se passe ici du côté du stade municipal, mais ça s'annonce compliqué pour les Payernois. Mais tout de suite, je vous propose de repartir dans l'autre rencontre de deuxième ligue inter avec vous, Romain Ediger et Baptiste Charrière.
Merci beaucoup Marius. 69e minute ici au complexe sportif du Lucie et le score n'a pas bougé, c'est toujours un sanglant 3-0 pour le FC La Tour Le Paquet face au FC Châtel-Saint-Denis. Et on a un FC La Tour Le Paquet en mode gestion, mais finalement qui se crée pas mal d'occasions et qui se tourne assez facilement vers l'avant.
Ouais, on a noté les deux grosses occasions de La Tour Le Paquet après Sacha Tavares qui touche le poteau là sur leur banc. J'aurais signalé hors jeu. Sacha Tavares quand même bien inspiré là lors de cette deuxième mi-temps, qui avait déjà trouvé la barre transversale, et puis là, sur un shoot qui touche le poteau.
Ouais, et on va vite repartir du côté de Payerne, puisque Marius, semble-t-il qu'il y a un but dans ta partie.
Mettre une frappe à mi-hauteur pour côté droit.
Merci beaucoup. Et ça fait 4-0 maintenant pour le CS Romontois. On s'est quitté décidément au mauvais moment avec Pedroza qui est venu aggraver le score. Il a profité tout d'abord d'une passe de son coéquipier, Shérif Gajigo, lui déjà buteur sur le 3-0. Et ensuite, même étage, a laissé filer ce ballon. Ça a permis à Kevin Pedroza d'adresser une demi-reprise de volée. Et décidément, ce n'est pas la fête ici du côté de Payerne avec ce score de 4-0 qui douche encore une fois de plus les espoirs des joueurs de Edin Betirovic. On va voir comment ils vont réagir pour les 20 dernières minutes ici au stade municipal de Payerne. Cette fois-ci, Baptiste Charrière et Romain Ediger, je peux revenir vers vous en espérant qu'il n'y aura pas de but dans les 30 prochaines secondes.
Et il y a du changement sur le terrain du complexe sportif du Lucie. C'est le poison Numa Fingini qui cède sa place. Quel travail, Romain, du numéro 18 gruyérien.
Ouais, le joueur là qui sort sous les applaudissements hein, de ses supporters, et puis le joueur qui a inscrit un doublé tout simplement, était tout proche aussi du triplé. Et puis c'est Evan Melo, un autre attaquant qui fait son entrée avec un peu plus de points hein, que Numa Fingini.
Un peu plus de points, on a de la profondeur, ça c'est le point positif du côté du banc du FC La Tour Le Paquet. Un changement de luxe pour Daniel Piller, effectivement Evan Melo qui fait son apparition pour apporter un peu de sang neuf, un peu de sang frais sur le terrain. Numa Fingini qui a beaucoup donné, qui semblait un petit peu fatigué. Il reste encore 20 minutes, le score est toujours de 3-0 pour le FC La Tour Le Paquet. Le FC Châtel-Saint-Denis est bien emprunté en cette seconde période, autant en première période qu'en seconde période. Pour l'instant, il n'y a pas débat dans ce derby fribourgeois romain. La Tour Le Paquet maîtrise clairement les débats.
Ouais, maîtrise clairement les débats, mais on sent quand même que Châtel-Saint-Denis a 2-3 crans en dessous de ses standards habituels, alors que là l'ailier gauche est sifflé en position de hors-jeu. On sent quand même que les Veuvaisans n'arrivent pas à trouver leur milieu de terrain, n'arrivent pas à trouver leurs attaquants, n'arrivent pas à faire grand chose aujourd'hui cet après-midi ici au stade du Lucie. Ils doivent jouer long, mais en même temps devant il n'y a pas beaucoup de hauteur non plus.
Ouais, à souligner le travail du FC La Tour Le Paquet. Peut-être que la philosophie, le système que Daniel Piller veut mettre en place commence à s'organiser. On le rappelle que l'entraîneur Tourin est à la tête de la formation gruyérienne depuis à peu près deux semaines hein, c'est tout récent. Et ils ont déjà effectué un très bon match face au FC Farvagnogo mercredi, et les choses commencent peut-être à tourner. Alors on va pas crier victoire tout de suite, mais il reste moins de 20 minutes pour l'instant. Les hommes de Daniel Piller semblent parfaitement gérer la situation. On va encore suivre cette action avant de repartir du côté de Payerne avec un long dégagement du portier guérien. C'est stoppé par la défensive Veuvezanne qui va essayer de repartir en contre avec Thibaut Clerc. Thibaut Clerc qui balance loin devant, mais une fois de plus l'attaquant numéro 12 du FC Châtel-Saint-Denis qui est complètement esselé, Yacine Bouya, mais qui a finalement réussi à récupérer son ballon. Superbe geste là du Veuvezanne, et goal. Et oui, réduction du score. J'ai parlé beaucoup trop vite, mais quel travail de l'attaquant Veuvezan.
Ouais, tu l'as dit Baptiste, mais c'est peut-être sur le seul ballon long qui passe. Exactement. Où les Veuvezan arrivent à se montrer dangereux. Et puis le numéro 22 se trouve un peu tout seul là devant le portier, Damien Répond, et peut réduire le score 3-1, 73e minute. Et on passe du côté du basketball.
Non, on va passer du côté sauf erreur de Payerne avec toi, Marius Cam.
Exactement, Baptiste. Ouais, Romain était déjà pressé de revenir au basketball, mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Encore un petit peu de football détalu avec cette rencontre entre Romain et le Stade Payerne, avec peut-être encore une occasion pour Romain. La passe pour Gajigo était juste un tout petit peu pas assez forte. Excusez-moi. On rappelle hein, le score dans cette partie de deuxième ligue Inter, toujours 4-0 pour le CS Romontois face au Stade Payerne. Décidément, hein, Romont qui surprend Payerne. On rappelle hein, deuxième. Avec une égalité de points sur Martigny, deuxième du classement, tandis que Romont, hein, eux, sont 12e. Donc forcément, hein, les Romontois ne partaient pas avec les faveurs des pronostics. Et pourtant, aujourd'hui, hein, comme lors du premier match de championnat, ils arrivent à renverser. Là, Memetage a réussi à chipper le ballon au gardien. Il y a le but qui est tout seul. Memetage qui tire. Ah, c'est bien touché par Touré. C'est un petit peu le football des talus là, avec ce qui vient de se passer. Memetage qui vient chipper le ballon au gardien qui était sorti. Gajigo qui se ferait maintenant un chemin dans les 16 mètres. Et il sera stoppé. Ouais, ça va un petit peu dans tous les sens. Là, il faut que le match reprenne un tout petit peu son fil. Mais en tout cas, hein, pour le moment, c'est Romont qui profite de ces minutes un tout petit peu folles, avec un changement qui va se faire tout de suite. L'occasion pour nous de repartir du côté de la salle du Nozedo pour aller suivre avec vous Valentin Nonzi et Pauline Cédou la deuxième mi-temps du basketball entre Fribourg Olympique et Massagno.
deuxième mi-temps qui a débuté sur ce panier du Fribourg Olympique. Il y avait 17 points de l'Olympique Olympique qui a pu marquer 3 points et le score désormais de 50 à 36. La balle dans les mains de Keith Clanton. Il n'y a pas de miracle. Pour espérer quelque chose, il faut réussir ce début de deuxième mi-temps.
Absolument, c'est ce que Fribourg est en train de faire avec une défense mixte de ce que j'ai vu. Peut-être deux personnes en individuel, ouais. Trois en zone. Mais surtout, verrouiller ce secteur des rebonds parce qu'on a été complètement dominé. On a laissé énormément de rebonds offensifs à Massagno. 11 rebonds offensifs, c'est des deuxièmes chances.
Ouais, exactement.
Massagno qui a provoqué aussi beaucoup de fautes. Et Fribourg a été dominé pratiquement dans tous les secteurs.
Avec une balle qui va être, tandis que la balle va être rendue aux Fribourgeois, à mon avis, 50 à 36 du côté Fribourgeois. Il faut collectivement faire mieux, Pauline, dans cette deuxième mi-temps et aussi individuellement, hein, notamment Nathan Jurkovic qui a vraiment pas du tout pesé sur cette première mi-temps.
Non, et qu'on a senti fébrile, ouais. Le capitaine Fribourgeois qui n'osait pas attaquer Douzan Mladjan alors qu'il recevait la balle en bas de la raquette et qu'il est bien plus grand que lui. Douzan Mladjan qui avait deux fautes et on a senti Nathan Jurkovic vraiment hésiter, finalement, ouais. ressortir la balle. Qui en a la sortie du temps mort pris par Thibaut Petit, il a enfin il s'est affronté contre Douzan Mladjan, il s'est complètement raté, donc 0 point à la mi-temps. Roberto Kovac aussi à 0 point,
ouais.
Il nous manque aussi cet apport là, hein. Ça fait mal et ça pèse dans la balance
avec Isaiah Williams pour Marco Mladjan. Le flotteur à mi-distance est manqué et la balle qui va être rendue au Fribourgeois. Ouais, il faudrait dans l'idéal basculer sous cette barre des 10 points et là le match pourrait, Pauline, être complètement différent.
Ça se serait relancé, ouais. Déjà dans la tête des Fribourgeois et puis peut-être que les Tessinois trembleraient un petit peu, mais il faut revenir assez vite parce que ça demande toujours cette double énergie, l'énergie qui permet de recoller au score et après l'énergie qui permet de passer devant
avec Notage qui met 2 points supplémentaires. Et ouais, la technique à Notage, il a quelque chose à Roby Gubitosa. Et monsieur Taliaboué qui
troisième
donne la technique
faute
à Eric Notage. Roby Gubitosa qui n'a pas bougé. Les deux hommes s'apprécient vraiment, hein. Il y a même une certaine amitié entre les deux hommes. Eric Notage qui a marqué un joli panier à 2 points. Pauline est malheureusement qu'à guider moi au coach Roby Gubitosa.
Ouais, le trash talking, ouais. Du basket, hein, c'est ces paroles qu'on dit, hein, un peu pour frimer, en disant voilà. Et monsieur Taglaboué, l'arbitre, troisième arbitre de la rencontre, qui était à côté d'Eric Notage, qui a, ouais, entendu les paroles. Et Eric Notage, il est déjà en première mi-temps, il perd beaucoup trop d'énergie,
ouais,
dans ce genre d'attitude. Et pourtant, Dieu sait s'il peut être fort quand, ouais, il est concentré sur son jeu. Mais parfois, il a tendance à se laisser déborder par les émotions. Et ici, par cette envie d'un petit peu de frimer, comme on dit, devant son coach, ancien coach, et peut-être même le nouveau futur coach. Hein. On sait que Massagno est très intéressé par Eric Notage.
Ouais, pour la saison prochaine, avec Donald sans pénétration et la faute de Nathan Jurkovic, le public fribourgeois qui s'énerve beaucoup contre les arbitres. Pauline, comme vous l'avez dit en première mi-temps, je trouve vraiment pas que c'est le problème numéro 1 d'Olympique aujourd'hui. Hein.
Non, et là, la faute de Nathan Jurkovic, elle est claire. Le trio arbitral a raison de siffler cette faute. On se laisse déborder. Nathan Jurkovic qui n'est pas tellement dans son match.
Hein,
il n'a pas l'habitude, lui qui est tellement fort en défense, de se faire prendre de vitesse comme ça par Denan. Et ensuite, effectivement, il a poussé le joueur sur les deux pas. Après, que le public joue son rôle d'intimidateur et d'essayer, ouais, de faire pencher un petit peu les décisions arbitrales, c'est très bien. Il faut que les joueurs, eux, ne s'en occupent pas du tout.
Et à 2 sur 2 pour Denan, ça permet à Massagno de reprendre 15 longueurs d'avance avec Joe Casadi pour Cheikhzane. Noté déjà 3 points. Ouais. On sait ce qu'il peut amener et il a une énergie monstrueuse. Après, il faut réussir à la canaliser. C'est ce qu'on disait en avant-match. Pauline, c'est la gestion des émotions.
C'est la gestion des émotions. Là, il a parlé, il a regardé son banc parce qu'il regarde aussi Thibaut Petit qui annonce les défenses. Fribourg qui fait de la zone quand il marque, ouais, le panier et qui est en individuel quand il n'arrive pas à marquer.
Avec Eric Noté, bonne défense de Martino. Il dégaine de nouveau à 3 points. C'est trop court. Et la bataille des rebonds qui est prise par Keith Clanton. On en profite pour faire un petit détour par le stade du Lucie. Avec vous, Baptiste et Romain, qui suivez la partie entre Châtel-Saint-Denis et la Tour-le-Paquet.
Merci beaucoup Valentin. 79e minute, on rentre tout gentiment dans les 10 dernières minutes de cette partie. Il faudrait rapidement trouver la faille côté châtelois si on veut espérer avoir une fin de match de folie. Mais pour l'instant, les Tourins jouent très très bien le coup et ne laissent que très peu d'espace au FC Châtel-Saint-Denis.
Ouais, c'est vraiment compliqué là pour les Veuvaisans de se projeter vers l'avant, alors qu'on va peut-être suivre une action là avec Ramabaja, le capitaine, dans l'angle au corner qui trouve Evan Melo. Evan Melo qui perd le ballon et puis les Veuvaisans qui vont pouvoir se dégager, mais c'est bien repris directement par les Gruyériens. Les Veuvaisans qui vont retoucher le cuir et qui vont essayer d'aller vers l'avant là, notamment avec un long ballon sur Yacine Boua. Yacine Boua toujours numéro 12 qui s'écroule dans les 16 mètres et puis l'arbitre indique un corner pour les Veuvaisans.
Ouais, très belle intervention défensive du défenseur gruyérien. J'ai pas réussi à voir qui c'était, mais très propre, et ce sera donc un corner. On va encore suivre ce corner avant de repartir du côté du basket. Un corner qui va être tiré par Thibaut Clerc qui s'élance maintenant. C'est parti, qui met dans la boîte. Il y a du mouvement, mais ça touche aucune tête. Ça revient à l'orée de la surface de réparation avec une frappe de l'extérieur. Oh, superbe, et la claquette du portier. Gruyérien, ça chauffe dans la surface de réparation. On trouve un partenaire, mais c'est encore une fois une bonne défense du FC La Tour Le Paquet. 81e minute, toujours 3-1 pour la formation gruyérienne face au FC Châtel-Saint-Denis. Valentin, Pauline, a-t-on raté quelque chose entre Fribourg Olympique et Spinelli Massagno?
Peut-être le début de la remontada du Fribourg Olympique. Il y avait 17 points de retard, il n'y en a plus que 10. Il y en a encore 10, certains nous diront. Et la bonne défense de l'Olympique, on a eu la contre-attaque. Faute antisportive sifflée contre Thomas Delans et Dusan Mladjan. Pauline, quel culot demandé de la vidéo. Hein.
Oui, la faute, elle était grosse. Rick Nottet qui prend la remontada un petit peu à son compte, ouais. Qui en fait beaucoup en attaque. Alors ça a fonctionné à deux reprises. La dernière fois, c'était un petit peu forcé. Par contre, en défense, il a bien senti la passe des Tessinois, il a pu intercepter, ouais. Et transmettre à Nathan Jurkovic qui partait pour nous claquer un gros dunk arrière. Et vraiment Denans qui a descendu Nathan Jurkovic. Enfin, la faute antisportive est assez claire, les arbitres n'ont pas hésité. Alors à la demande peut-être d'un coach challenge, ouais. On va voir la vidéo, mais je pense que les arbitres devraient confirmer les deux lancers francs plus la balle pour le Fribourg Olympique.
Exactement, on profite de cette petite intermède vidéo pour retourner du côté du stade municipal avec toi Marius qui suit, j'ai envie de dire, la démonstration du CS Romontois cet après-midi en terre broyarde.
Les téléspectateurs, ils voient le match.
Ici, on joue la 81e minute de jeu au stade municipal de Payerne. Le score, il n'a pas bougé depuis la dernière fois qu'on s'est quitté. Toujours 4-0 pour le CS Romontois, avec un match qui a un petit peu perdu en vitesse depuis quelques minutes. Romont qui se contente de parquer le bus derrière, tandis que Payerne essaye tant bien que mal de s'en sortir, mais qui n'arrive vraiment à trouver aucune solution pour le moment. Et c'est le capitaine Kevin Borges, acclamé, qui sort actuellement pour laisser sa place à son coéquipier. Et c'est tout de suite Jonas Proge qui va se rendre sur le terrain. Et sans plus attendre, on profite de son changement pour repartir du côté de Massagno avec vous, Valentin Danzy et Pauline Sédou.
Avec la décision des arbitres, c'est confirmé. La faute antisportive contre Thomas Delans. 53-43, on est à cette barre symbolique et psychologique, souvent en basket, des 10 points de retard ou d'avance.
Et on a la troisième faute de Denans.
Exactement, ouais.
C'est aussi un élément important. Denans, qui est un joueur assez sobre, mais qui fait parfois très mal à Fribourg, complet, qui défend bien. Et on commence à avoir un tout petit souci de faute du côté de Massagno, alors que c'était plutôt Fribourg qui était pénalisé en première mi-temps dans ce secteur.
Avec Nathan Jurkovic, c'est beaucoup de réussite sur le
deuxième. C'est le premier point. Hein.
Ouais, exactement. Et on sait qu'il est tellement important du côté fribourgeois. Il n'a pas du tout pesé sur la première mi-temps. Mais Pauline, c'est un tout autre Fribourg Olympique dans cette deuxième mi-temps.
Bah déjà, Fribourg qui commence à dominer le secteur des rebonds, qui peut mettre en place du jeu rapide. C'est ce changement de défense qui est intéressant avec cette variation entre la zone et de l'individuel en fonction de si on marque ou pas, qui pose problème aussi à Massagno. Et voilà, tout va un peu mieux. Il y a aussi beaucoup plus de jouerie
clairement.
Dans l'équipe. Et puis maintenant, on est passé passer en dessous des 10 points, 8 points d'écart, on a en plus la balle. Si on pouvait marquer, vraiment, je pense que tout le match serait relancé.
Avec la balle dans les mains de Cheikh Sané pour Eric Notic, défendu par Marco Mladjan. On joue pour Nathan Jurkovic qui ressort pour Martin à 3 points. Ça paraît trop long, c'est trop long. Et c'est Isaiah Williams qui prend ce rebond. Mais c'était juste le shoot pris par Kylian Martin.
Et c'était juste pour Nathan Jurkovic d'attaquer de nouveau. Hein, toujours il est défendu par Dusan Mladjan avec ses deux fautes. Et on sait que Dusan Mladjan, les deux frères Mladjan qui ont mis 23 points en première mi-temps. Ouais. Particulièrement Dusan Mladjan qui a fait très mal avec ses 13 points.
Avec Isaiah Williams en pénétration, c'est manqué. Le rebond qui est pris par Olympique avec Notic pour Jurko. Jurko, les deux points. Il y a presque une petite faute derrière, mais Pauline, le jeu rapide du Fribourg Olympique.
De nouveau, on a pu intercepter, on a bien défendu, on a pu lancer. Eric Notic qui a eu l'intelligence de faire la passe, de ne pas forcer. Et Nathan Jurkovic qu'on retrouve, le capitaine fribourgeois, et comme par hasard, Olympique va mieux aussi.
Et l'interception de Eric Notic du côté fribourgeois, ouais, c'est un tout autre match de basket. Martin, il faut se calmer. Ressorti pour Nathan Jurkovic qui se fait contrer par Clanton. Ah, dommage. Il y avait Kazadi qui demandait la balle du côté fribourgeois. Le score 53 à 47 avec Isaiah Williams. C'est la faute de Nathan Jurkovic qui s'est fait prendre sur le premier pas d'Isaiah Williams.
C'est vrai qu'il a voulu se racheter de son tir contré en attaque en essayant de défendre et de chipper la balle. Il en a fait un tout petit peu trop le capitaine. Il est coupé de sa deuxième faute.
Exactement. Et la balle qui est redonnée à Dusan Mladjan. Petit détour par le stade du Lucie avec Baptiste et Romain. Vous suivez la partie entre Châtel-Saint-Denis et la Tour Le Patier.
Merci beaucoup Valentin. On est entré dans les dernières minutes du temps réglementaire. 86e minute, il reste encore 4 petites minutes avant un léger temps additionnel. Les choses, la messe est presque dite, Romain.
Ouais, et puis avec un seul mot, c'est tenir pour les Tourins. Tenir pour cette victoire, ces 3 points qui pourraient faire énormément de bien, qui feraient énormément de bien, qui permettraient à la Tour Le Paquet de maintenir l'espoir. Hein, cette mission maintien, c'est une mission qui a débuté depuis quelques matchs avec ses nouveaux entraîneurs Daniel Piller et Carlos Exactement. Matos. Et puis là, cette victoire, ça mettrait fin à 5 matchs sans défaite exactement. Et la Tour Le Paquet qui doit maintenant capitaliser sur ce qu'ils ont créé là, ces 3 buts et puis cette bonne performance, Baptiste.
Ouais, exactement, ça permettrait pas au FC la Tour Le Paquet de rejoindre cette barre qui a 6 points, mais elle serait très très bonne pour le moral et elle va certainement être bonne pour le moral pour les hommes de Daniel Piller, en plus à l'extérieur lors d'un derby. Encore 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire, donc toujours 3-1 pour le FC la Tour Le Paquet face au FC Châtel-Saint-Denis. Retour au basket avec toi Valentin et Pauline Sédou.
Merci beaucoup Baptiste et Romain. Il y a un temps mort qui a été pris par Roby Gubitoza. 53 pour Massagno, 47 pour Olympique. On en profite pour faire un rapide détour par le stade municipal avec toi Marius qui suit la partie entre le stade Payerne et le CS Remontois.
Il me semble, en tout cas chez nous en 4ème ligue c'est les points fair play qui comptent.
Ouais, je sais pas.
Je crois, ou le diff, ouais, je sais plus. Mais... Watch.
De retour ici à la salle de Nozedo avec la balle dans les mains d'Isaiah Williams. 53 pour Massagno. Marco Mladjan à longue distance. Ouais. Il a manqué tout à l'heure, mais Pauline, il faut vraiment lui contre lui. On ne peut pas le laisser libre, hein, clairement.
Non, on ne peut pas le laisser libre. Il y a eu un petit problème sur la défense de zone. Marco Mladjan était entre deux positions défensives des Fribourgeois. Et les deux Fribourgeois qui ne se sont pas compris. Puis finalement, Marco Mladjan qui s'est retrouvé seul.
Avec Donans qui a manqué à longue distance et la bataille des rebonds qui a été gagnée par Massagno et la balle qui va être rendue au Tessinois. C'est de nouveau un moment important. Hein. Pauline, Olympique a réussi à réduire une bonne partie de l'écart. Il faudrait réussir à rester dans l'idéal à 5-6 points de Massagno avant le dernier quart.
Oui, là on voit de nouveau 9 points d'écart. Fribourg qui est un petit peu plus en difficulté. Massagno qui commence à trouver des solutions aussi sur les défenses des Fribourgeois et des pertes de balles un peu stupides. rapide du côté des Fribourgeois qui permettent à Massagno de garder en course cet écart.
Mais heureusement, une balle perdue derrière par Massagno, ça rend la balle à Olympique. 9.
Et Nathan Jerkovic qui attend le public, qui demande aux Fribourgeois, au public Fribourgeois bien présent, de jouer son rôle, de pousser l'équipe.
56 pour Massagno, 47 pour Olympique avec Joe Casadi. On va rejouer avec Notage qui va aller tout seul en pénétration, assez compliqué. La faute, on s'en sort bien sur le coup, hein, Pascoline. Il y avait vraiment, il y avait en plus Antonio Ballard sur le chemin d'Eric Notage.
Oui, Eric Notage, il avait un Fribourgeois, il me semble que c'était Arnaud Couture, non plutôt Kylian Martin qui était seul dans le corner à 3 points. Et Notage aurait dû lâcher son ballon plutôt que de continuer à s'enfoncer contre ses grands gabarits en face.
Ouais.
La faute, elle est gentille. Hein, le trio arbitral, là, nous rend un petit service.
Avec Eric Notage, du coup, sur la ligne des lancers francs après la deuxième faute sifflée à Antonio Ballard. 56 pour Massagno, 47 pour Olympique, qui a donc comblé une partie, pratiquement la moitié de son retard, mais il reste 9 unités de retard pour les Fribourgeois avec Notage sur cette ligne des lancers francs à 4 minutes 38 de la fin du troisième quart. Premier lancer franc réussi par Eric Notage. Il aura le droit à une deuxième tentative. Le meneur et meilleur marqueur de cette partie du côté fribourgeois. 18 points pour Eric Notage. 2 sur 2 sur la ligne des lancers de francs. 46-49. Il fait beaucoup. Il fait énormément à Olympique. Attention à Pauline à ne pas trop en faire. Mais pour l'instant, il prend vraiment ses responsabilités, le meneur américain.
Ouais, pour l'instant, il fait un gros début de deuxième mi-temps. Hein. C'est vraiment lui qui a donné l'impulse. Avec Nathan Jerkovic qui commence à monter en puissance. Et même Thibaut Petit qui est pratiquement le sixième défenseur sur la ligne latérale.
Ouais, j'aurais bien aimé être dans le vestiaire fribourgeois à la mi-temps. Hein, parce qu'il y a eu certainement des mots qui ont été dits. En tout cas, les mots ont été les justes parce qu'il y a vraiment une belle réaction d'Olympique. Est-ce que ça va suffire? C'est la question. Mais Olympique qui montre vraiment un meilleur visage dans cette deuxième mi-temps. Ah, la balle perdue avec la mésentente entre Joe Casadi, Pauline et Nathan Jurkovic. C'est vraiment une balle bêtement perdue.
Ouais, comme celle d'Eric Notage avant, ouais. Sur Nathan Jurkovic qui s'est pas, Eric Notage qui s'est pas assez décalé sur le côté puis qui a fait une balle en profondeur que Nathan n'a pas pu attraper. Il y a encore ces petits couacs qu'on voit que Fribourg est beaucoup mieux. Mais toujours, il manque quand même l'élément qui permettrait de revenir à égalité.
Et derrière le dunk ravageur d'Isaiah Williams, ça refait 9 points de retard pour Olympique. On va partir du côté du Lucie puisqu'on joue le temps additionnel dans ce derby fribourgeois entre Châtel-Saint-Denis et la Tour-le-Paquet. Radio Fribourg.
Lors d'un derby, ça va faire beaucoup de bien aux 11 gruyériens, mais également au nouvel entraîneur Daniel Piller qui voit que ses idées se mettent gentiment en place après 3 bons matchs. C'est enfin la victoire et de forte belle manière, alors que là il y a un coup franc qui a été sifflé pour le FC Châtel-Saint-Denis. On essaye de jouer rapidement. On n'a pas réussi à voir combien de temps additionnel. L'arbitre avait laissé certainement 3 minutes, 3 ou 4 minutes. Il y a beaucoup de monde dans la surface de réparation à essayer de chercher encore un dernier but pour sauver l'honneur. Côté Veuvezan, c'est Pierre Domoret qui est derrière le ballon et qui tarde avant de jouer. Il essaye de trouver une solution. C'est balancé dans la boîte, mais c'est beaucoup trop court. Pas bien joué là du milieu de terrain châtelois avec le défenseur Tourin qui dégage le ballon. On essaye de garder la possession avec le numéro 23 gruyérien. Entrée à l'heure de jeu, David Valélian qui perd le ballon. Mais c'est finalement une mésentente côté Veuvezan avec Evan Mello qui ouvre sur le côté. Il y a beaucoup d'espace là pour le numéro 17, Nicolas Chevny qui change de côté. Et finalement, récupération de balle pour les Tourins. Et Romain, il y a un coup franc qui a été sifflé.
Ouais, exactement. Et puis la Tour-le-Paquet qui arrive très très bien à gérer cette fin de rencontre. Des longs ballons, ils arrivent à trouver leur attaquant de pointe et puis ça permet de gagner quelques secondes, des secondes précieuses là pour les Tourins. Et puis après, c'est des coups francs, c'est des changements en fin de rencontre aussi pour gagner quelques temps. Et puis là, on va faire rentrer du 109, c'est le numéro 17 de la Tour-le-Paquet, Nicolas Chenevli qui va céder sa place à un nouveau entrant.
Ouais, on essaye de casser un petit peu le rythme dans ce qui est probablement la dernière minute de jeu avec Nicolas Chenevli effectivement qui qui cède sa place à un attaquant alors qu'on essaie de voir
son numéro. Ouais.
C'est le numéro 4 côté Tourin qui n'apparaît pas sur la feuille de match, donc on ne peut pas vous dire son nom. Le jeu a repris avec certainement l'une des dernières occasions de cette partie. On revient tout derrière, l'arbitre qui fait durer le plaisir encore avec Yulan qui va s'enfoncer dans la surface de réparation. Il y a peut-être encore une occasion pour l'FC La Tour. Le paquet tire au premier poteau, mais tire beaucoup trop écrasé. Le portier Vevezan qui dégage le ballon et qui envoie sur orbite le numéro 12, Yacine Bouya, qui a fait le travail préparatoire pour le seul but de son équipe. C'était à la 70e minute. Et là, le ballon qui arrive jusque dans les pieds du portier Guerrero, hein, qui joue avec un coéquipier, en l'occurrence le numéro 13, Sacha Lopez. Sacha Lopez qui joue avec son défenseur. L'arbitre prolonge ce match. On joue avec Evan Melo. Evan Melo qui perd le contrôle de ce ballon. Et j'en profite pour partir du côté de Payerne, puisque Marius, semble-t-il que l'arbitre a sifflé de ton côté la fin de la rencontre.
Exactement, Baptiste, 4-0 pour Remont. Voici le score final, la correction infligée par les Remontois ici à Payerne. Remont qui surprend Payerne. Et le programme pour les deux équipes la semaine prochaine, hein, Payerne qui va se déplacer contre le FC Échichan, 9e du classement, tandis que le CS Remontois accueillera Farvani Ogo à la maison pour un derby fribourgeois. Merci de nous avoir suivis ici à Payerne et ici à Payerne pour cette victoire 4-0, on le rappelle, du CS Remontois. On va retourner tout de suite de votre côté, Baptiste Charrière et Romain Ediger, où le match s'est terminé au stade du lycée.
Exactement, Marius, merci beaucoup. Et puis l'arbitre, les deux bras levés vers le ciel, les joueurs Vevezan sont à terre. C'est une victoire de la Tour Le Paquet, 3-1, le match est terminé. Quelle prestation, Baptiste, aujourd'hui des Tourins.
Ouais, victoire méritée pour les hommes de Daniel Pierre. Et on va saluer la prestation d'un homme, Nouma Fingini, qui a clairement montré la voie à suivre à ses coéquipiers aujourd'hui. Et c'est ça qu'on a besoin de la Tour Le Paquet, des leaders, des hommes qui montrent le chemin à suivre. Et c'est donc une victoire pour le FC La Tour Le Paquet sur le score de 3-1. Les choses donc se compliquent encore un peu plus pour le FC Châtel-Saint-Denis. Je vous propose sans plus attendre de repartir du côté du Tessin, alors que semble-t-il Fribourg Olympique revient peu à peu au score.
Exactement, attention Isaiah Williams à 3 points, c'est manqué. Marco Mladjan, la grosse défense de Adomal. Martin qui redonne cette balle à Ballard, son tir habituel, ça rentre. Et ça fait 60 pour Massagno, 54 pour Olympique. On a enfin un acte 3 vraiment hyper intéressant à suivre, Pauline.
Ouais, Olympique qui fait très mal à Massagno avec ses changements défensifs, ça perturbe un petit peu le jeu d'attaque des Tessinois. Et surtout Fribourg qui commence à dominer
l'herbeau. Ross Williams qui fait sa levée, le public fribourgeois. Pauline, c'est vraiment une toute autre équipe. Thibaut Petit a trouvé les mots justes durant la pause.
L'attitude des joueurs est différente et ces changements défensifs vraiment qui aident les Fribourgeois à récupérer des balles. Il reste encore quelques erreurs en attaque avec des balles perdues, mais sinon ça va beaucoup mieux.
Avec Dusan qui répond à Ross Williams à 3 points. Ça fait de nouveau 6 points de retard pour Olympique. 63 pour les Fribourgeois, 57 pour avec Ross Williams. Peut-être de nouveau à 3 points. Oh, c'est quoi ce match? La réponse de Ross Williams à Dusan Mladjan. 63-60 avec Marco Mladjan, ouais, qui a failli dégainer. Et l'interception presque réussie de Notage. Mais Pauline, c'est vraiment au niveau défensif, ça n'a absolument plus rien à voir avec la première mi-temps.
Non, mais c'est assez chaud parce qu'on a une ligne de zone à 3 avec Eric Notage et Ross Williams qui sont les petits en haut. Et en face, ils ont Dusan et Marco Mladjan qui sont à 3 points. Et on voit Nathan Jukovic qui coach Ross Williams en lui disant mais faut que aucun des deux doit être seul. On peut pas se permettre de se laisser un des frères Mladjan à 3 points.
Avec la balle récupérée par Olympique, 3 points de retard, 63-60 avec Eric Notage. Olympique a l'occasion de réduire encore l'écart. Il y a Ross Williams. Attention à ne pas prendre feu. Oh, s'il le met, c'est pas possible. Ah, c'est manqué. Hein, on va pas lui reprocher, hein, Pauline, d'avoir de nouveau tenté sa chance à longue distance.
Non, il vient de marquer deux gros shoots. En plus, il a réussi à se libérer. Il y a les grands qui sont rebonds. Il faut qu'il continue comme ça.
Et la faute offensive de Donan, sa quatrième. Pauline, très très bien défendue de Ross Williams. ça.
Le petit, 1m78, mais le petit vraiment sur le terrain, qui s'est bien mis en opposition à la hauteur des lancers francs. Denens qui est rentré comme s'il y avait personne en défense dans la raquette. Et Williams qui était vraiment en place. Donc très très bonne décision des arbitres. Et l'occasion pour Fribourg de repartir en attaque. Il reste 36 secondes, 3 points de retard. Mais on est vraiment beaucoup mieux qu'en première mi-temps.